Marseille accueille le Congrès mondial de la nature du 3 au 11 septembre 2021. À cette occasion, nous vous proposons un podcast spécial, 4 épisodes sur mesure, 4 thèmes qui s'inspirent du Congrès mondial UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes allés à la rencontre des habitants locaux qui aiment, connaissent et protègent la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tout au long de l'année. Le thème de cet épisode, la biodiversité. Arbres, fleurs, insectes, animaux et humains, sommes-nous vraiment conscients des relations et interactions à l'œuvre dans notre environnement, qu'il soit urbain, campagnard et même sauvage? Nos interlocuteurs aujourd'hui, Claire Chaumel, une botaniste enthousiaste qui sillonne nos rues à la recherche de la biodiversité urbaine, Frère Pavel, un prieur dominicain qui a son mot à dire sur l'écologie, Corinne Dragon de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement et Charlotte Lescal de l'équipe Mouvement et Paysages qui intervient dans le jardin des migrations au MUCEM à Marseille dans un jardin autonome.
Comme une planète en Provence, un podcast de Dialogue RCF à l'occasion du Congrès mondial de la nature à Marseille.
Globalement, la pression majeure qui affecte la biodiversité, c'est l'artificialisation de notre territoire et son corollaire, la fragmentation, qui va consommer en fait les espaces naturels ou les espaces agricoles pour des zones de lotissement, des zones d'activité, des infrastructures de transport. Et là, c'est vraiment une perte pour la biodiversité, une perte en milieu.
Corinne Dragon est chargée de mission auprès de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Cet organe public mène des campagnes de recensement, mais aussi de protection de la faune et de la flore en Provence-Alpes et Côte d'Azur. Elle organise également des ateliers de sensibilisation auprès des citoyens et des acteurs publics.
On a également toutes les pollutions, que ce soit de l'eau, de l'air et du sol. On parle beaucoup des pollutions par les produits phytosanitaires qui causent de lourds problèmes. Et on parle aussi beaucoup en ce moment des pollutions plastiques qui contaminent l'ensemble des milieux. Et par exemple, pour la plupart des tortues kawanes qui ont été autopsiées en Méditerranée nord-occidentale, eh bien, la majorité était contaminée par des déchets plastiques. Alors, les oiseaux sont des espèces qui sont bien suivies depuis de nombreuses années et ce sont de bons indicateurs en fait de l'état des écosystèmes. Les résultats qui ont été diffusés dernièrement sur les 30 années de suivi des oiseaux communs en France, c'est un programme qui s'appelle le STOC, le suivi temporel des oiseaux communs, et les résultats sur 30 années ont montré qu'effectivement il y avait 46 espèces de nos oiseaux communs, des oiseaux qu'on voit à peu près tous les jours, qui sont en déclin, avec notamment des espèces comme la tourterelle des bois ou encore le chardonneret élégant ou encore le martinet noir qu'on va trouver également notamment dans nos villes. Et effectivement, les espèces qui vont être plus spécialisées de certains milieux et en particulier les espèces des milieux agricoles et aussi des milieux bâtis ont tendance à décliner sur notre territoire. Plus fortement au niveau des milieux agricoles cultivés, c'est vrai qu'on a une agriculture qui devient de moins en moins accueillante. pour les oiseaux. Elle offre moins le gîte et le couvert. Et puis aussi dans nos villes, effectivement. Voilà, la rénovation de nos façades, les opérations de réaménagement qui finalement vont être moins favorables aux oiseaux, notamment en éliminant les espaces où ils peuvent nicher, par exemple pour les martinets. Et effectivement, ces espèces spécialistes des milieux urbains ont tendance aussi à décliner. En fait, il n'y a que les espèces généralistes, le pigeon ramier par exemple, qui s'adapte un peu à n'importe quel milieu, hein, qui ont tendance à augmenter, tandis que les espèces des milieux spécialistes déclinent. Donc ça, c'est pas un bon indicateur en fait d'un bon état de santé en fait de la biodiversité. Cette banalisation en fait des espèces, qui est juste le reflet en fait d'une homogénéisation de nos paysages et de nos milieux.
Charlotte Lescal est responsable de l'équipe Mouvement et Paysages qui intervient sur le jardin des migrations au Fort Saint-Jean à Marseille, au pied du Mucem.
C'est pas le même que ça, ça oui.
Non, ça c'est une mauve arborescente qui pousse en bord de mer, qui a tendance à se ressemer énormément.
Ah ouais.
Et regardez, ces feuilles, elles sont hyper douces. Et donc la mauve, c'est une plante comestible qui a plein de propriétés apaisantes parce qu'elle est pleine de mucilage qui adoucissent notamment les maux d'estomac. Et voilà, elle a des fleurs aussi qui sont superbes et comestibles et très décoratives. On la boit en tisane, on peut faire des cataplasmes avec les feuilles aussi et la manger... Il y a certains visiteurs, plutôt maghrébins, qui me disaient qu'eux, ils préparaient les feuilles, ils la cuisaient et ils mangeaient les feuilles comme des épinards. Dans les climats méditerranéens, les végétaux, on dit qu'ils rentrent en estivation pendant l'été. Et donc ils vont vraiment avoir plein de stratégies pour se mettre au repos. Par exemple, il y en a qui vont perdre leurs feuilles pour limiter les surfaces d'évapotranspiration. Donc ils vont être vraiment tout nus. Il y en a qui vont les huiles essentielles, par exemple, c'est une stratégie aussi pour résister à la sécheresse parce qu'elles vont créer comme une petite cloche autour de la plante et produire comme un petit brumisateur.
Ah ouais.
Pour les rafraîchir. Les poils comme ceux du ciste cotonneux vont être utiles pour capter la rosée et faire un tout petit peu d'ombre sur la plante. Ou il y en a d'autres qui ont les feuilles très lustrées comme celui-ci. Ça va permettre de
réverbérer.
Voilà.
Une réverbération de...
Voilà.
Ah, super.
Et donc toutes ces plantes, elles sont adaptées et résistent. Et après, il faut pouvoir que nous, on transmette qu'on transmette le fait que ces plantes, en été, esthétiquement, elles seront pas hyper vertes, elles seront pas hyper en fleurs, mais c'est normal parce que c'est leur cycle naturel, quoi. Ouais. J'ai l'impression que petit à petit, il y a plus de compréhension. Alors, est-ce que c'est lié, aux étés, quand même les derniers étés qui étaient très chauds, aux incendies qu'il y a eu en Australie, en Amazonie, je sais pas. Est-ce que ça fait prendre conscience de certaines choses? Mais en tout cas, effectivement, l'été, c'est la période où la médiation a tout son sens. Et où on est vraiment là pour expliquer, non, c'est pas mort, c'est sec, c'est brun, il n'y a plus de feuilles, certaines fois, mais c'est pas mort et c'est le cycle naturel de la plante, quoi.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Frère Pavel, prieur à l'église conventuelle dominicaine de Marseille.
Quand vous regardez la réflexion des penseurs de l'écologie d'il y a 20, 30 ans, ils vont très souvent pointer la responsabilité, d'après eux, du christianisme dans la crise écologique. À savoir que ce rapport de consommation, voire même de l'abus vis-à-vis du monde, serait fondé dans ce commandement divin qui ouvre l'écriture. Dieu, en créant l'homme et la femme, leur dit « Dominez la terre, soumettez-la, multipliez-vous ». Et donc, du coup, c'est dans ce regard de la domination sur le monde qui serait la cause de notre rapport, un peu des rapaces qui se servent de l'univers mis à leur disposition, qui leur serait assujetti, voire même dont on peut user et abuser, pour reprendre une vieille expression latine. Le pape veut pointer, entre autres, une chose: le regard chrétien sur la création n'est pas nécessairement le regard de la domination irresponsable. Tout d'abord, lorsque Dieu dit à l'homme « Créez, dominez la terre et soumettez-la », cela signifie de fait que l'homme a une place tout à fait unique dans le monde. Il a un rapport tout à fait unique à ce monde qui lui est confié. Et donc, il doit en prendre soin, il doit en dominer comme Dieu est Dominus, maître, seigneur, n'est-ce pas? Ce dominer évoque ce rapport de Dieu vis-à-vis du monde. Et Dieu n'abuse pas du monde. Dieu n'utilise pas le monde n'importe comment. Au contraire, il en est la source de l'existence. Et on voit dans le même récit de la création que d'abord ce monde est confié à l'homme pour qu'il le cultive et le garde. Cette image du jardin que Dieu donne à l'homme pour qu'il le cultive et le garde. Donc c'est pas du tout une domination destructrice. Et nous voyons au contraire que suite à ce que l'Écriture décrit comme la chute aux origines, ce qu'on va appeler le péché originel, il y a toute une série de ruptures de l'homme avec Dieu, les ruptures à l'intérieur du couple, les rapports de jalousie, de la domination, et aussi ce conflit avec la création, qui n'est plus du tout un rapport de cultiver et de garder d'une manière paisible, mais quelque chose de conflictuel, de dur, de violent. Et au contraire, pas quand vous voyez le Christ au tout début dans sa mission, Jésus qui va dans le désert, poussé par l'Esprit, pour résister aux démons qui le tentent. Et l'évangéliste Marc dit « Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient ». Jésus, comme nouvel Adam, qui retransforme de nouveau ce désert en jardin, où il peut être en paix avec la création. On peut penser qu'une des raisons, une des causes de ce regard sur la nature ne serait pas tant toute la tradition judéo-chrétienne, mais plutôt quelque chose qui apparaît à l'époque de Descartes, c'est pas quand Descartes dit que la science et le savoir nous rendra maître et possesseur de la nature. Et c'est là où commence ce regard sur la science qui va nous livrer la technologie, qui nous permettra de devenir maître et possesseur de la nature, mais plus du tout la question de garder et cultiver la création comme un jardinier qui cultive ce jardin pour qu'il redevienne le jardin de paradis, mais au contraire s'en saisir. Et du coup, si la création n'est pas un don de Dieu, et s'il n'est pas ordonné à Dieu, alors je suis là dans cette immense solitude et je dois aménager ma vie comme je peux avec cette science qui me rend maître et possesseur de la nature. Très clairement dans la Bible et tout au long des Écritures, il y a ce thème qui revient d'une manière récurrente, qu'en contemplant la création, l'homme découvre le Créateur. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament, l'ouvrage de ses mains. Donc voir dans la création, non pas quelque chose qui nous est livré en pâture, non pas une sorte de l'arrière-boutique abandonnée qu'on peut piller quand bon nous semble, mais précisément un livre de la création qui nous parle de Dieu. Nietzsche disait « On ne peut croire en Dieu qu'à la campagne ». Derrière cette parole quelque peu scénique, il y a en même temps une grande vérité. Nous vivons dans un monde résolument artificiel. La nature ne nous parle plus puisque nous ne la voyons pas, nous ne la contemplons pas. Elle est pour nous la base des ressources. Découvrir dans la nature l'objet de la contemplation qui nous parle de Dieu est certainement un de ces éléments de la conversion écologique que le pape François appelle, et c'est pas la conversion au paganisme qui va diviniser la nature, mais la conversion vers Dieu qui pourra rendre du coup à la nature sa place de quelque chose qui est créé, mais qui parle de Dieu.
Claire Chaumel, férue de botanique, part à la recherche de la nature tout autour de nous et propose des visites guidées dans le parc national des Calanques à Marseille. Aujourd'hui, nous la retrouvons en plein centre-ville.
Donc ici, on est sur le cours Joseph Thierry. On va bientôt passer sur le cours prolongeant là. Et en fait, voilà, on a des petits bouts de nature ici. Là, la nature, c'est quelque chose de très grand. En ville, elle est très réduite, elle est un peu comprimée. Mais c'est quand même super d'avoir des arbres. Et bon, en plus, aujourd'hui, on a la chance, à 3h de l'après-midi, il pourrait faire très très chaud. On a frère vent, là, qui nous fait un bien fou. Donc déjà, ça, c'est chouette. Et donc là, on a un arbre qui est typique de la Provence, qui est un micocoulier. Donc le micocoulier est vraiment un arbre qui est vraiment d'ici. C'est pas du tout un arbre transformé, hybridé. Donc c'est vraiment un arbre qui est très intéressant. Bon, d'abord parce qu'il fait une belle ombre. Et puis c'est un arbre dont on peut manger les fruits et les feuilles. Donc c'est un arbre vraiment intéressant. Il a un gros noyau, mais les fruits sont délicieux. On les mange plutôt à l'automne. Et les feuilles, quand elles sont très jeunes, on peut les manger aussi. Donc ça a un très bon goût, mais alors bon, c'est vrai qu'en ville c'est moins évident de manger ça, mais c'est un arbre qui pousse spontanément, qui est sauvage, qu'on trouve dans la nature, qu'on peut trouver ailleurs, donc voilà. Et le micocoulier, on en parle aussi, c'est une tradition provençale, on en parle dans Mireille, Frédéric Mistral cite le mas des micocoules, donc voilà, c'est quelque chose de très très local et de très intéressant. Alors en ville, bon, on peut éventuellement cueillir des plantes en ville, voilà, l'ennui c'est qu'il y a la pollution, c'est qu'il y a tout ça.
Donc c'est un arbre qui est adapté à notre climat.
Voilà, c'est vraiment là. Et ça, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on replante pas mal de micocouliers. Je suis très contente de la manière dont les jardiniers en ville ont fait beaucoup d'efforts pour mettre des plantes qui sont plus locales. On avait avant des massifs de fleurs qu'il fallait arroser tous les jours. Mmh. Aujourd'hui, on a vraiment des plantes qui sont plus locales. Donc le micocoulier, c'est un arbre vraiment adapté, qui ne demande pas beaucoup d'eau, qui ne demande pas beaucoup d'arrosage et qui pousse très vite en plus, donc il fait vite de l'ombre. Mon métier, c'est éducatrice spécialisée, mais j'ai fait une formation il y a 4 ans, qui a duré 3 ans, une formation avec le collège pratique d'ethnobotanique avec François Couplan, donc de botanique avec une sensibilisation à la nature, à ce que c'est que la nature, voilà, avec des week-ends théoriques et puis des semaines où on a fait un petit peu différents coins de France pour voir les différents types de milieux dans lesquels évolue la nature. Alors, moi j'ai toujours beaucoup aimé la nature. Quand j'étais petite, on allait toujours en vacances en montagne, à marcher en montagne, à camper en montagne. Et puis ma grand-mère aimait beaucoup les plantes. Ma grand-mère ramassait les plantes quand elle était jeune, même quand elle était vieille aussi. Et quand j'étais petite, on venait avec elle, mais moi ça ne me plaisait pas beaucoup à cette époque-là. Je préférais cueillir des fleurs ou faire des galipettes dans l'herbe. Mais ouais, elle ramassait des plantes, elle faisait des salades avec, elle faisait des produits... des remèdes aussi avec, voilà, mais j'ai pas acquis d'elle, hélas.
Ah oui, ça t'est venu plus tard.
Voilà, c'est venu plus tard, mais voilà, j'ai toujours eu cette sensibilité, et puis en fait, j'ai eu l'occasion, il y a une quinzaine d'années, de faire un stage botanique de plantes comestibles et médicinales avec une amie, et puis je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment très intéressant, voir qu'on pouvait approfondir ça, donc j'ai commencé là, et puis après, plusieurs fois, j'avais vu ces propositions de formation aussi, Et je me suis dit, pourquoi pas approfondir cette question, ça m'intéressait beaucoup. Puis avec cette idée d'écologie aussi, puis de simplicité, de rapport à la nature un peu plus naturel, un peu plus simple, un peu plus... Voilà. C'est tout ce qui est possible de faire pour la respecter davantage aussi, bon, avec cette urgence aujourd'hui, quoi, aussi, de l'écologie, quoi. La nature a un pouvoir très fort d'apaisement, de régénération. Mais moi, je sais que c'est ce que je... En fait, moi, c'est ce que je ressens pour moi. Quand je suis stressée, j'ai vraiment besoin d'aller me promener dans la nature. C'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Et je, voilà, que je l'expérimente pour moi et j'ai vraiment envie de le partager à d'autres aussi. Donc du coup, au foyer, on propose de temps en temps des sorties. Et puis du coup, on nous a prêté un petit bout de jardin à la Belle de Mai. Donc où on plante quelques bricoles. Mais voilà, d'aller tous les mardis matin là-bas, on y va à pied, on part par là d'ailleurs. Et c'est vraiment un grand bonheur de voir les femmes qui sont très heureuses de venir là-bas, puis de cultiver, puis de partager leurs expériences de leurs différents pays. C'est chouette aussi. Et donc voilà, et de simplement d'être là, donc on prend toujours un petit moment de méditation, de relaxation. J'anime aussi un atelier relaxation au foyer. Et là aussi, voilà, apprendre à prendre en compte son corps.
Faiblesse de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du monde.
Alors là, voilà, alors là, on a un univers merveilleux là. Voilà, donc là, on pourrait s'arrêter des heures à regarder l'herbe qui est par terre. Alors, on va monter un peu plus haut parce que là, je vois que c'est un petit peu sec ce côté-là. Donc, on a un endroit qui est arrosé, donc ça, c'est pas tout à fait naturel. Mais on a des plantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Alors, on a une petite plante toute bête là, qui est excellente. On a un plantain. Alors, ici, on a souvent le plantain lancéolé, mais ça, c'est le plantain médium. Donc, c'est une plante. Qui est ovale, qui a des nervures parallèles, c'est un petit peu ça qui aide à la reconnaître. Et qui, alors je ne vais pas les ramasser ici parce que c'est pas, je ne suis pas rassurée tout à fait de la propreté, mais bon, si j'avais rien d'autre, je le mangerais. Donc c'est le plantain, c'est un petit goût de champignon, c'est une excellente salade. Ça a plein de vertus en plus, c'est quelque chose de très très commun. Et voilà, un plantain qui est sous la plante des pieds, qui ressemble un petit peu à un truc qu'on met sous la plante des pieds. Et ça, c'est une excellente salade qui a des vertus, j'ai perdu le mot, un peu astringente, voilà, c'est ça. Voilà, bon, il y a des tas de vertus. Et puis alors, les plantes, quand on dit leurs vertus, elles ont toujours tout un tas de vertus différentes. Et voilà, après, on peut mélanger parce que ça, on ne sait plus où on est. Mais c'est un vrai trésor d'avoir sous la main, dans n'importe quel pré, on a ces genres de plantes. Et ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'on a tendance à... Le rapport à la nature et aux plantes sauvages... Historiquement, on peut dire que voilà, les gens ont d'abord été des cueilleurs chasseurs, et puis voilà, on a fini par se sédentariser et par cultiver et cultiver des céréales en particulier. Mais on peut dire que dans l'histoire, on a eu tendance à mettre en avant ce qui venait de loin et ce qui paraissait supérieur. Donc, on peut dire déjà qu'au Moyen Âge, on mettait en avant plutôt le gibier. Que les salades et que les salades sauvages, et bon, les gens mangeaient des raves, des tas de choses qu'ils trouvaient qui cultivaient, mais voilà, ce qui était valorisé, c'était le gibier, et le gibier ailé parce que c'était plus près du ciel. Enfin, il y avait des tas de symboles, en fait on mange des symboles, hein, on peut dire ça. Mais voilà, cette idée aussi de dire que c'est intéressant de revenir à ce qu'on a près de soi sans aller chercher des choses de loin, alors qu'on en a des trésors près de nous et qu'on a tendance à négliger et parfois, même à des époques, à mépriser même ce qui est trop facile d'accès. Oui. Voilà. Alors que c'est un trésor, quoi.
dans l'allée des séquoias. J'ai respiré en entier pour une fois.
Comme une planète en Provence, un podcast de Dialogue RCF à l'occasion du Congrès mondial de la nature à Marseille.